Ah, on me demande de faire la météo. C'est bleu plein ciel.
C'est beau.
Fait soleil. Il n'y a pas grand nuage à l'horizon. Là. Peut-être quelques petits nuages que tu pourras me confirmer dans le secteur nord, Audrey, mais pour le reste, on est bien Québec.
Honnêtement, même dans le secteur nord, c'est pas... C'est des petits nuages pour faire un beau paysage. Là. Il n'y a rien là-dedans.
Il n'y a rien là-dedans? Bon, parfait. Cet après-midi, on parle d'un 40% de probabilité d'averse. Donc, si vous avez le temps ce midi, allez profiter du soleil. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous avez quelque chose à nous dire, ça fonctionne par texto.
Il y a un léger ralentissement si vous êtes sur Laurentienne, direction sud. Vous allez chercher la capitale, direction ouest. Sinon, la circulation est interdite sur la bretelle vers l'autoroute 40 ouest quand vous êtes sur Dufresne-Montmorency. C'est pas mal tout pour l'instant. Ça roule super bien. Quoi que ce soit d'autre, vous vous gênez pas. Là.
10h25. Est-ce que vous êtes amoureux des livres? Audrey semble être une grande passionnée des livres, de lecture.
Oui, j'imagine ça dépend lesquels.
Vous êtes toutes comme Audrey ou encore vous êtes de simples curieux. Ne manquez pas la méga bibliovente au centre de foire d'exposité. Ça se déroule à partir d'aujourd'hui, donc du 29 au 1er juin. C'est le rendez-vous littéraire de l'année. Des milliers de livres qui vont être présents à prix réduit. On parle de romans, on parle de bandes dessinées, des livres jeunesse, des essais. Donc, vous allez trouver ce qu'il vous faut nécessairement. Si tu as ta carte de la bibliothèque, l'oublie pas. Il y a des tirages qui vont se faire pour les membres aussi. Donc, viens faire le plein de découvertes, des coups de cœur, des bonnes affaires. 200 000 documents déballés tout au long de l'événement. Ça va être un super de bel événement. Pour connaître les heures d'ouverture et en apprendre davantage, visite bibliothèquedequebec.qc.ca. Méga bibliothèque. All right. Ça va être une belle entrevue aujourd'hui. On aime bien ça, les recevoir quand on a des bonnes raisons de les recevoir. Puis c'est le cas aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale des casques bleus. C'est une journée internationale qui a lieu tous les ans, le 29 mai. C'est aujourd'hui, c'est un événement qui a été créé en décembre 2002 par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une journée qui rend hommage au personnel civil, policier, militaire pour leur contribution inestimable au travail de l'ONU. On a le plaisir de recevoir en studio Fred Caron, qui est un ancien casque bleu dans le cadre de cette journée-là. Salut Fred!
Bon matin, ça va bien?
Content de te jaser. Je t'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a de ça quelques années, dans une autre vie radio, je t'avais vu passer aussi. Les gens se souviennent de Fred Caron. T'as eu une super de belle carrière militaire.
Oui, c'était vraiment plaisant. Je regrette rien.
Non. 25 ans?
25 ans. Juste en arrière, on voit montagne. Tu disais, parlais tantôt du Nord. On voit montagne juste là, en arrière de Montriquet, oui.
T'étais dans cette montagne-là?
Ça fait partie de la base qu'on voit là-bas, là. Fait que c'est direct ça. Là. J'ai pas passé ma vie à Valcartier.
Ouais.
Mais j'ai passé le restant et la fin de ma carrière. J'ai commencé vraiment à Valcartier et j'ai terminé à Valcartier. C'est pour ça que je suis encore implanté à Sainte-Catherine de Valcartier.
Ouais. Il y a une époque, Fred, où on nous raconte dans les livres d'histoire à l'école que t'étais obligé à 14, 15, 16 ans, t'étais enrôlé puis t'allais faire la guerre. Qu'est-ce qui fait que tu choisis de rentrer dans l'armée?
Mais moi, ça avait commencé en 85. Il y avait quand même un exercice de bas du fleuve à Rimouski. Bien, j'étais un natif de Rimouski. Et puis, j'avais vu des trucs d'armée passer. Puis, ça m'avait déjà inspiré. Et voilà. Puis après ça, j'ai rentré dans les cadets. Puis, j'ai développé. Puis, je disais que mon secondaire, c'était une partie difficile de ma vie pour me rendre là où je voulais aller. Fait que je l'ai fait quand même.
Mais c'était l'action qui t'intéressait? C'était de pouvoir partir à l'extérieur?
Moi, je disais que mon garçon, je ne fais pas un coming out parce qu'il le sait déjà, mais il veut rentrer dans les forces.
Okay.
Il veut suivre, mais un peu. Ben, j'ai dit, fais ta carrière. Moi, j'ai fait la mienne. Mais j'ai dit, regarde. Il dit, moi, papa, dans la vie, je joue au hockey, je veux voyager, je veux sauter en parachute, puis je veux avoir de l'argent. Bon, je lui ai dit, regarde, écoute, c'est à peu près le centre de recrutement qui pourrait t'offrir ça. Parce que je t'annonce que oui, avec les Diablos, ils performent très bien, mais il ne fera probablement pas la Ligue nationale. Alors que ça, à base, ben, toutes les unités ont une ligue de hockey, puis c'est quand même du bon calibre. Fait que je dis, tu vas avoir du fun, tu vas te payer, tu vas voyager, puis tu vas, oui, sauter en parachute.
Fait que c'était le fait de bouger, toi, l'école, ça t'intéressait pas. Fait que tu te dis, tiens, je veux faire une carrière militaire.
Moi, je t'aurais dit dans ma tête en partant, au point de départ.
Y avait-tu un métier que tu voulais faire en particulier?
Je me souviens, j'avais été au centre de recrutement, et puis il y avait des journaux qu'on appelait Assistance et Latium, mais d'attente, c'était Sentinelle. Et puis, il y avait des parachutistes. Puis j'avais arrivé au centre de recrutement, voir le sergent recruteur, j'ai dit, moi, je veux être ça. Là, il me regarde, il dit, ça marche pas tout à fait
ça
comme
ça.
Ça
marche pas demain, non?
Il dit, faut que tu trouves un métier, puis après ça, tu vas faire ton cours de parachutiste, et puis là, tu vas devenir parachutiste. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai rentré comme un fantassin, éventuellement, puis c'est le métier qui me recherchait, là, qui me trouvait, là, que je trouvais le plus intéressant pour moi.
Fait que c'était le Royal 22?
Royal 22e. J'ai commencé comme sous-officier, et puis je me suis rendu au grade d'adjudant. Ensuite de ça, on m'a offert de transférer officier pour aller prendre la compagnie de reconnaissance afghane.
Ouais.
Puis c'est de là que j'ai transféré officier. Puis,
quand tu deviens officier, faut-tu que tu retournes à l'école? T'as-tu un retour à l'école?
Moi, ça me prenait mon secondaire 5 pour commencer.
Ouais.
Les officiers, naturellement, de base, ils vont passer par le collège militaire.
Exact.
Et puis, il y a quand même quelques programmes, mais le programme d'aller chercher un membre du rang et d'aller chercher, exemple, un bagage d'expérience de 15 ans, ouais, et de l'apporter au sein d'un groupe d'officiers plus jeunes, ça peut apporter un certain équilibre des fois. Ouais.
C'est aussi valable que l'école, l'expérience, des fois?
Ben, je pense que l'école de vie, t'as un peu plus des fois. C'est comme moi, étudier les maisons longues, etc. C'était ouais, correct.
T'as-tu trouvé ça tough? Parce que, tu sais, j'ai des chums, moi, qui sont dans l'armée canadienne, j'ai des chums retraités, puis ouais, les 22, là, des fois, ils ressortent maganés physiquement. De
on est tous démolis après 25 ans. Je veux ouais, dire, c'est, ça vient avec, à part quelqu'un qui a réussi à avoir une carrière tranquille. Je veux dire, mais j'en connais pas tant, là, moi, là, qui ont sorti, puis qui... Quelqu'un qui n'a pas un doigt foulé ou un épaule dérinchée, ou moi, dans mon cas, c'est généralisé, mais je veux dire...
Puis la discipline, t'avais-tu un problème avec la discipline au départ?
Pas du tout. Non, non, comme je disais, moi, à partir de 13 ans, j'étais déjà dans un cadet, fait que les cheveux longs, okay, ça m'est jamais arrivé.
Non.
T'avais déjà un cadre qui était très établi.
J'avais un cadre très établi, puis j'avais quand même donné des cours de leadership dans un cadet, fait que ouais, ça n'a pas été du nouveau pour moi lors du commandement, etc. Et puis, non, non, c'est, écoute, c'est une carrière, c'est... Si je rajoute mes 5 ans de cadet, plus, tu sais, j'ai porté le béret pendant 30 ans. Fait que c'est quand même quelque chose.
On va parler des casques bleus, mais
oui, allez-y.
Dans ta carrière militaire, oui, avant de faire les casques bleus, t'as-tu été en mission?
Moi, je suis rentré en 88.
Ouais.
À partir de là, mais là, c'était drôle hier parce que hier, ça faisait 36 ans que je partais pour l'Europe. Je partais pour 4 ans pour en Allemagne. Là, hier, j'étais là, OK, je suis vraiment vieux. Là.
prise de conscience.
Mais non, j'ai fait mes cours de recrue à Saint-Jean, après ça, Valcartier, cours de métier. Puis à partir de Valcartier, je suis monté en Europe direct pour 4 ans.
OK, mais là, après ça, c'est Bosnie qui commençait?
Pas tant que ça tout de suite, parce que je suis parti à la guerre du Golfe en 91. Fait que okay, la première guerre du Golfe, il y en a eu deux. Fait que la première, j'étais là, on était au Qatar. Puis quand on est revenu tout de suite, ça a commencé à arriver, l'histoire de l'ex-Yougoslavie.
Ouais.
Parce que c'est pas juste la Bosnie, c'est la Croatie, etc. etc.
Fait que toi, est-ce que tu as fait ces trois missions-là successives ou tu as eu un break entre les trois?
J'avais un roulement peut-être de 3 ans entre chaque, peut-être environ.
OK.
Mais quand on calcule que déjà en partant, c'est quasiment un an d'entraînement avant de partir. Fait que t'es pas souvent chez vous.
C'est ça, j'allais demander. Entre ouais, c'est une drôle de question, dans le fond, mais entre les missions, qu'est-ce qui se passe?
Je te dirais qu'il y a un an de break certain quand on revient. Ben, un an de break, ce qui veut dire que tu seras pas déployé. Mais c'est certain que si à Saint-Jean, l'eau déborde, il faut aller faire des travaux, on va y aller. Là, mais ouais, ça reste dans la communauté. Là, tu ne dépasses pas là, les... À part si tu vas faire des cours comme à Gagetown, c'est certain que des cours de commandement, des cours de perfectionnement, il faut que tu les fasses, puis c'est important.
Mais sinon, tu ne dépasses pas les frontières pendant
sinon, tu
ne
dépasses pas les frontières, tu restes à peu près un an, puis après ça, l'entraînement commence pour la mission. Puis, d'habitude, ça commence pas mal, mettons, l'ouest, le centre, l'est, l'ouest, le centre, l'est. Puis là, ça se bouscule comme ça.
C'est une drôle de question, là, parce que moi, la seule référence que j'ai, c'est les films, là. Fait que
ouais, vas-y. Je
vais te poser beaucoup de questions sur les films, Fred. Les entraînements, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Mettons que tu nous le fais vivre un peu. Vous faites quoi dans les entraînements? C'est direct à la base ici?
Oui, bien, ça se passe essentiellement ici, puis essentiellement après ça, par la suite, exemple, à Wynnette. Mais je pense qu'à Wynnette, à cette heure, là, ça se déploie un petit peu moins. Je pense que l'entraînement, à cette heure, il se prépare. Les gars vont en Lituanie, ils entraînent l'armée là-bas, etc. Tu vois, c'est pas trop loin de l'Ukraine. Mais on n'est pas encore en Ukraine, on est encore en Lituanie. Mais si tu veux qu'on parle juste de l'entraînement, ça commence à partir de la base du soldat individuellement, le maniement d'armes, les tirs, les étapes de tir, etc. Ensuite, ça arrive au niveau de la section. Fait qu'une section, c'est environ 10 personnes. Après ça, un peloton 30, une compagnie 100, un bataillon. Après ça, c'est un groupement tactique qui se déploie au complet, ça veut dire... Il y a plusieurs corps de métier, exemple l'artillerie, les blindés, les ingénieurs. Là, tout le monde est englobé pour éventuellement être déployé.
Est-ce que vous êtes préparé à la guerre? T'sais, quand tu es rendu en théâtre de guerre, là, quand tu entends un missile tomber, moi, c'est ce qui m'avait marqué des vétérans qui me jasaient. Ils disaient, vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bruit quand ça tombe. T'sais, est-ce que vous êtes bien préparé à justement vivre ce genre de choses-là pour pas qu'un, tu sais, pour que le F que vous choisissiez en théâtre ouais, de guerre, c'est-à-dire figer ou fuir, tu sais, ce soit exclu, faut vraiment foncer. Est-ce que vous êtes bien préparé?
De nos jours, l'entraînement est vraiment réaliste. je dirais que oui, on est capable de pousser jusqu'au moment là, que ça te laque quasiment, puis tu dis OK, ça peut ressembler à ça.
OK.
On essaye dans les chantiers d'aller le plus réel possible, puis d'accoter la personne, puis le mettre en situation, et de mettre des blessés au travers de ça qui sont vraiment à cette heure, on est capable de simuler des blessures, puis ouais. Là, tu sais, puis là, mettre avec l'état de choc un peu au travers de ça, puis les bombes qui tombent. Mais c'est pas des vraiment morts, naturellement, c'est du C4, etc.
T'as-tu la chienne?
La chienne, je l'ai eue à quelques reprises, certains. J'ai pas mal toujours été en contrôle, à part un certain 14 juin, que dans ma tête, ça se bousculait pas mal en 2009. Mais j'étais le patron de la gang, fait que j'avais pas le droit de le laisser paraître. Puis dans ma tête, bien, ça s'est bousculé, mais soudainement, on a repris le contrôle, puis... C'est un travail d'équipe, d'Alphonse.
On va essayer.
Mais c'est normal d'avoir peur.
Oh, ben oui, ben oui. Mais si t'as pas peur,
c'est un danger.
Chaque saut en parachute que j'ai fait, là, j'avais peur. Si t'as pas peur, monte pas dans l'avion. Ouais. Là,
c'est toi qui pliais ton parachute?
Non, ça, c'était pas moi. Civilement parlant, je le pliais moi-même.
Ouais.
Mais non, dans l'armée, il y a des riggers qu'on appelle.
Tu demandes tout le temps le gars qui plie ton parachute. Là. Quel genre de soirée il a vécu la
veille? Mais des petits trips fuckés qu'on a fait, c'est qu'on, avant de s'habiller, on changeait de parachute. Fait que là, on disait. Alors, mais ça, c'était pour se donner un petit peu de misère.
On va sûrement parler de santé mentale parce que ça vient avec tout ça. Là, souvent, quand on parle des militaires, on parle de traumatisme, de choc post-traumatique. On a reçu, Fred, il y a quelques semaines, moi maintenant, une travailleuse sociale en métier d'urgence qui nous a dit quelque chose en fin d'entrevue, moi, qui m'a marqué. Elle nous a dit qu'il fallait arrêter de poser des questions aux policiers, aux militaires, aux gens qui font face à des images qui sont traumatisantes, à des situations qui sont traumatisantes parce que ça vous replongeait, veut pas, là-dedans, tu sais. Puis elle travaille beaucoup, beaucoup avec ces gens-là qui sont en gros choc post-traumatique. Est-ce que c'est dur pour toi de replonger dans ces souvenirs-là, des fois?
Je te dirais que le cheminement... Je vais parler de moi, là.
Oui, oui, oui.
Moi, mon cheminement, en 2009, ça a mal été. Après ça, tombé un peu, on va dire, une dépression. On va dire, tu sais, pas le même homme que j'étais avant, là.
Mm-hmm.
Et puis, à partir de 2013, m'a mené ma femme à côté de la mur, puis elle a dit, là, tu te fais soigner, ou badon.
Terminé.
Elle dégage.
Ouais, c'est ça, là, puis c'était correct. Non, mais tu sais, Audrey, elle m'a toujours appuyé, puis c'est Audrey, ma femme aussi.
OK.
Ouais, c'est pour ça que je m'excuse, là.
Non.
Fait que, non, mais c'est ça. Mais je dis, j'ai été suivi, j'ai été bien suivi. De là, l'expérience d'avoir écrit le livre que je t'ai envoyé, puis
ouais.
je dis, ça, c'était un cheminement très thérapeutique. Les 50 premières pages, c'est l'Afghanistan. Puis là, à un moment donné, j'ai fini. J'ai dit, ah, là, qu'est-ce que tu me demandais, là? Elle a dit, bon, il faut continuer. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là? Fait que là, j'ai recommencé à ma naissance, puis je me suis rendu à 5 ans. Puis, je te dirais que les 4 dernières journées, avant que j'ai fini mon livre, je me suis enfermé dans une chambre d'hôtel 4 jours, puis j'ai dit, c'est là que j'ai fini.
Je voulais
terminer avant mes 50 ans.
Fait que pour toi, c'est thérapeutique d'en parler.
C'était très thérapeutique, je veux dire, mais aujourd'hui, j'ai appris à prendre mes distances. Je sais où ce que ça brûle, puis je sais où pas me brûler.
Okay.
Costco, c'est pas fait pour moi.
OK. Arrête.
Ça grouille trop.
Ça grouille trop. Mais je le sais, puis avec les psychiatres et les psychologues, oui, c'est vrai, ils essayaient de me replonger. Vas-y un petit peu, va le parking, va le... Non, je me dis, j'ai dit, qu'est-ce que m'appelle, excuse-moi, mon langage. Mais j'ai dit, ça m'intéresse pas pantoute, j'ai pas besoin...
Chez IGA, en plein jour, quand il n'y a pas un chat, ça fait un job
aussi. Tu peux choisir tes moments, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas rien qui m'oublie, surtout qu'à la retraite comme ça, pourquoi aller plus être dans le trouble quand c'est pas nécessaire?
Parce que tes yeux sont constamment en train de surveiller les portes de sortie, les individus qui pourraient être louches, essayer de contrôler un peu les gens qui passent autour de toi. C'est-tu des
Mais
tu
sais, nous autres, ce qu'on parlait des indicateurs de combat, c'était des choses que tu te regardes, exemple, puis tu passes la route, et puis tu vois un pont. C'est niaiseux, là, c'est un pont. Moi, dans ma tête, en Afghanistan, par exemple, je faisais une allusion à ce pont-là, il peut-être le coin en dessous, Fait qu'aujourd'hui, je revois ça encore, mais c'est beaucoup moins pire, puis j'ai pas peur de passer sur le pont.
Okay.
Tu sais, je veux dire, il n'y a plus de problème. Sauf que si je roule ça à 20, puis que je vois des oiseaux qui tournent en rond dans le coin, sur le bord du chemin, là, je me dis, il y a quoi de mort là? Mais c'est pas un mort.
Tu sais, c'est des associations.
Tu sais, c'est sûrement une bête qui est là. Puis là, fait que le déclic, il se fait en pas long. Puis la dissociation. Ouais, j'en ai fait beaucoup là, de ça.
Ouais.
Aujourd'hui, ben, ça s'estompe tranquillement. Ce que je comprends pas encore, c'est que je rêve encore à l'armée. Fait que là, je me dis, pourquoi j'ai pas rêvé à ce que j'ai fait hier? T'sais, je dis, c'est pas quelque chose qui se posait me revenir encore après 13 ans là, de, que je ne suis plus dans l'armée. Là.
Ouais.
Mais c'est, fois, ça reste, ouais. Mais c'est tout le temps. Comme cette nuit, mon rêve, c'était niaiseux, mais c'était, j'étais pas en contrôle d'une situation X. Mais à l'aide des psychiatres, j'ai compris que c'était probablement tout le temps le même pattern de rêve qui revenait du moment que je te parlais tantôt, que j'avais pas de contrôle.
T'as fait plusieurs missions à travers le monde. T'as vu à quel point la guerre avait des impacts particuliers sur la population qui était en place. Quand tu revenais ici, t'étais-tu capable de rationaliser les choses en disant « OK, bon, là, c'est les petits Québécois qui se plaignent, là, pour Orgien. Faut que je me remette comme dans ma tête en tant que Québécois. » Parce que t'en as vu des choses ignobles, tu sais. Puis quand tu reviens ici, ben les gens, on se plaint pour rien. Tu devais faire ce lien-là souvent.
Moi, je pense que tout ce qui se passe, exemple, à Kiev, puis en Palestine, puis les bombes qui tombent, je pense qu'on en parle plus ici que les autres qui en parlent là-bas. Parce que les autres, ils tombent une bombe, c'est normal.
C'est un lundi.
C'est un lundi. C'est tranquille aujourd'hui.
C'est tranquille.
Il n'a pas tombé deux, il en a tombé une. Je sais qu'à mon retour de Bosnie, parce qu'on était tellement... On faisait une fixation sur les champs de mines qu'il y avait là-bas.
Ouais.
Les premières semaines, c'était pas évident de juste embarquer. Juste le fait d'embarquer sur le gazon, de dire, hey, t'as peu, là. Là, un moment donné, je me promène sur le terrain de golf, puis je pense pas à ça pendant tout. Non. Mais je te dirais que les premières semaines, oui, c'est. Il y a l'entraînement qui fait qu'on build certaines conditions à être conditionné pour aller là-bas. Mais quand tu reviens, il y a peut-être pas le clash, il n'y a pas de décompression. Il y en a une petite décompression quand on revenait de l'Afghanistan. C'est intéressant, on rencontrait le psychiatre le jour, le matin, l'après-midi, on a la piscine, on prenait quelques bières.
C'est sur une île, ça? Hein?
Oui, c'est à Chypre. Là, si on veut revenir aux Nations Unies, justement, Chypre, l'armée canadienne était là longtemps.
Ben oui.
Et puis, ça a brossé en 1974 énormément. Le général Foran, il était là-bas, puis il était capitaine à l'époque. Puis aujourd'hui, c'est une légende du régiment. Mais à partir de là, 1974, ça a brassé. Mais dans les années 80, l'île de Chypre, les Canadiens étaient encore là sur le mandat des Nations Unies.
Ouais.
Parce que dans le temps, au début, ils ont été entre les Grecs et les Turcs. Puis là, et voilà. Et puis, c'est devenu, je pense, quasiment le clubmètre de l'armée, elle est là.
Oui, exact. Okay. C'est ce que les gars disaient. Oh, il y avait
le
du plaisir.
Chypre, les gars revenaient casser, ils revenaient pas une scène dans les poches. Là. Alors, c'est vrai. Là. Non, c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça que peut-être ça nous a apporté que quand on est parti en Bosnie en 92, on partait de l'Allemagne, on mettait tout notre armement dans les trains, puis on est parti de l'art en Allemagne, puis tchoukou-tchoukou, ça a pris 4 jours pour se rendre en Croatie. Quand on est arrivé en Croatie, je pense qu'on n'était pas prêt mentalement à fesser ce qu'on a fessé comme mur. Là.
Ouais.
Nous autres, dans notre tête, là, c'était Chypre. Là. Non, c'est pas Chypre.
C'était plus tenté.
On est ailleurs. Là.
Les relations avec les frères d'armes, j'imagine qu'à un moment donné, tu fais qu'un veut pas là, à être tout le temps ensemble, à vivre des affaires qui sont relativement traumatisantes. Tu as encore des contacts?
Moi, de base, j'étais un gars qui entretient moins bien ses amis, peut-être. Je suis pas le gars qui va poigner le téléphone, puis etc. Sauf que, oui, il y a des gens à qui on fait des petits checks de temps en temps, puis j'ai encore beaucoup de mes soldats qui me rappellent, puis qui me disent des fois, « Ah, Fred, je file pas, tatatitatata. » Puis là, tu sais, oui, OK, c'est correct, mais tu sais, je suis plus capitaine, je suis rendu Fred, là, tu sais.
Mm-hmm.
Mais je suis capable de, avec mon bagage d'expérience puis mon bagage thérapeutique, je suis capable aujourd'hui de continuer à aider un peu.
Mais tu as toujours été un leader naturel aussi.
Peut-être, mais des fois, c'est le fun de mettre son sac à dos à terre et de dire, écoute, c'est lourd ce que tu me fais vivre. Là, même.
Les casques bleus sont arrivés quand dans ta vie?
92, je me rappelle, je ne sais pas si faire une pause, parce que ça peut être long ce que je vais dire, là, mais comme je te dis, on était assis dans le théâtre, puis le commandant d'unité nous a arrivé avec un béret bleu sur la tête, puis on dirait aussi qu'il s'en va, lui, avec son béret bleu, un matin. Puis il nous dit, on s'en va en Yougoslavie. Là, on s'en va en Yougoslavie. OK. Moi, j'arrivais de l'Irak, là, tu sais. J'arrivais de la guerre du Golfe.
Ouais.
Fait que là, il dit, OK, on repart, il n'y a pas de problème. Le 3 ans de break n'existait pas, là. Puis on est monté en Bosnie, puis le mandat des Nations Unies, il est tellement... Je dirais pas dilué, mais il est tellement. Les règles d'engagement sont tellement pas claires que tu n'as pas de mandat.
Est-ce que j'ai entendu, Fred, là, c'est que quand tu es un casque bleu, bon, on te donne une mission que tu dois respecter, faire tes affaires. Mais s'il y a un crime qui est commis devant toi, l'autre côté de la rue,
tu as les deux mains attachées.
Tu ne peux absolument rien faire, aussi cruel soit le crime qui se passe.
à moins d'être visé personnellement, là, t'as pas grande option.
Fait que t'as pas de règles d'engagement.
T'as les règles d'engagement, sévères. Mais elles sont tellement sévères que ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, ce qui s'est passé, exemple, à Sarajevo en 92, là, alors donne-moi le même mandat que j'avais en 2009 en Afghanistan, puis ça dure 5 minutes.
C'est pas... Ça aurait pas été long, hein?
Ça aurait pas été long pantoute.
Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une drôle de question, là. C'est...
Ben, en Bosnie, c'est... Alors, Yougoslavie, ce qui a commencé, c'est qu'il y avait une zone de démilitarisation. On est entre les deux. Là, on disait, nous autres, là... Moi, les Nations Unies, la manière que je vois ça, c'est la première... Non, c'est la deuxième. Exemple, on se sépare, moi et toi, OK?
OK.
Première affaire, on dit, gars, je t'aime plus, on se laisse, les enfants, on s'organise. Bon, ça, c'est la première étape facile, puis il n'y a pas de chicane.
Généralement.
Généralement, OK? Mais si tu as besoin d'un petit support qui dit, OK, à gauche puis à droite, on va aller voir un médiateur. Puis le médiateur, lui, va, OK, regarder, on va voir les options. Moi, le médiateur, je vois ça un peu comme les Nations Unies.
OK.
Tu sais, on se montre les deux, puis on dit, OK, vous autres, là, vous vous aimez plus, mais c'est correct, mais tu sais... Fait pas de folie, là. Là, de temps en temps, tu reçois une claque sur la gueule, pareil, parce que c'est pas facile une séparation. Fait que c'est un peu ça. Puis là, quand le temps embarque, ben là, ça, c'est l'avocat qui dit, hey, tu vois, là, c'est terminé, là.
L'image
fait
est belle.
Je fais longtemps que je médite mon image, là, puis ma phrase était déjà préétablie. Mais
si j'y avais pensé,
mais,
pour être clair.
Mais tantôt, tout ce que tu as fait à l'entrée de show, j'ai dit, OK, ça, j'avais essayé de comprendre ça pour m'en rappeler. Là, finalement, tu l'as dit, fait que j'ai pas besoin de le dire.
Fait que les casques bleus, c'est on est là pour appliquer les cessez-le-feu.
Appliquer les cessez-le-feu, le maintien humanitaire, la sécurité internationale.
Désarmer les combattants aussi?
Je te dirais que ça sort du mandat. Ouais. C'est pas un hasard qu'en 92, on était là comme béret bleu, puis ça a duré jusqu'en 95. Puis là, c'est le Kosovo, les États-Unis qui s'en ont mêlés, parce que les États-Unis, on sait qu'ils sont dans l'OTAN depuis... Le début en 45, si je ne me trompe pas. Mais ils s'en mêlent pas trop. Fait quand ils s'en mêlent, c'est genre le Kosovo. Bang, on fait une grosse entrée. Mais ça avait juste plus de sens d'être en Yougoslavie puis sur un mandat des Nations Unies. C'est pour ça qu'en 96, on a rentré sur le mandat de l'OTAN. Là, ça a changé les règles d'engagement, ça a changé la dynamique. Là, on avait plus de pouvoir. Puis là, c'était le I-4, qu'on appelait l'Implantation Force, quelque chose. Puis c'était la force d'implantation. Puis ça a duré. Là, on a commencé à voir l'évolution. Puis quand j'ai retourné en 99, c'était rendu la S-4, qui était la force de stabilisation. Fait là, on commençait déjà à voir les écoles recommencer, puis la vie reprendre dans les rues. Puis là, on a dit, OK, là, on a servi à quoi?
Tu préférais quoi, toi? Casque bleu ou tes autres missions militaires?
Casque bleu, je n'étais tellement pas préparé à ça. Là. Je te dis, ça a commencé avec le commandant qui a dit on part. Puis on est parti. Puis je pense à l'époque que mon Kodak Delco était plus important que mon arme parce qu'on disait oui, que c'est ça. Là, on prend des photos. Puis on était sur le mode Chypre. Puis on a quand même fait un mur à Sarajevo. Là. C'était quelque chose. Mais d'avoir les mains liées, on se faisait carrément tirer dessus. On était entre les deux factions, mais entre les trois, parce que des fois, les Serbes chicanaient avec les Croates, à un moment donné, chicanaient, ils étaient alliés avec les musulmans. Mais là, à un moment donné, les musulmans chicanaient pour une usine de chocolat qui était au bord de la rue.
Là, fait que t'as préféré tes missions militaires.
Ben moi, j'ai aimé, ouais. Personnellement, c'est certain que mon gros bagage d'expérience que j'ai eu, c'était à Kandahar en 2009, alors que j'étais avec les forces britanniques, puis on était un petit groupe de Canadiens, puis je mentorais une compagnie d'armée afghane. J'ai dit, ça, c'est le summum de ce que quelqu'un dans l'armée, je pense, veut faire, là. D'avoir les deux pieds dans le trou, puis si je me fais tirer dessus, ça veut dire que j'ai le droit de te tirer dessus.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est plus la même dynamique.
Ouais, je veux rester avec les casques bleus.
Vas-y,
là,
vas-y.
Ce qu'on m'a dit, c'est que vous deviez être sûr et certain que la balle était pour vous pour engager le combat quand vous étiez casque bleu.
C'est une question de règle d'engagement. On va dire, exemple, la règle 401, c'est si quelqu'un te tire, tu as le droit de répliquer.
Okay.
Mais si quelqu'un tire, Audrey, par exemple, moi, je peux pas répliquer pour Audrey.
Oh!
Fait que t'imagines... C'est ça, c'est la règle, exemple 401.
Fait que tu peux pas protéger tes frères d'armes.
Non, ça prend, mettons, exemple, la 402 pour le faire.
Qui est?
Qui est de protéger la personne à côté de toi ou de m'engager dans quelqu'un qui se ferait, mettons, battre dans la rue, j'aurais le droit. Mais tant que tu es sur la 401, tu n'as pas le droit d'intervenir.
Fait que ce que les gars me disaient, mais, qui ont été casque bleu...
401, c'est peut-être pas la vraie histoire, non, là, mais...
Mais ce que les gars me disaient qui étaient casque bleu, c'est le sentiment d'impuissance parfois.
C'est le gros sentiment, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées aujourd'hui à cause de ça.
Exact.
Je veux dire, là, c'est certain d'avoir les mains liées. C'est incompréhensible. Exemple, on passait dans les rues, et puis on voyait une maison qui avait une poule à tête coupée, clouée dans la porte.
Rien.
Ça veut dire, demain matin, si t'es encore là, ta maison va sauter.
Ça,
là, quelle sorte de monde de fou. Puis ça a toujours été un monde. Toutes les chicanes proviennent de la religion, la plupart du temps, ce qui fait de moi un gars athée aujourd'hui. OK?
Très assumé.
Très assumé, là. Je vais aller à ton mariage, même si tu veux que j'enlève mes sandales puis je me mette à genoux sur un tapis, ça me dérange pas s'il y a partait après, là. Mais sinon, non, j'essaie de me tenir au moins tout ce qui est religion.
Puis comment ça fonctionnait là-bas? Vous étiez au travers de la population? Vous dormiez où quand vous étiez casque bleu?
Casque bleu, on était vraiment dans une zone de délimitarisation, vraiment en deux. On appelait ça la ZOS dans le temps.
Ouais.
On était, mettons, 200 mètres à gauche, 200 mètres à droite. Moi, j'étais en plein centre.
Puis vous dormiez là?
On dormait là. On dormait sur les camps. Il y avait plusieurs petits camps. Puis il y avait des gros camps de base qui nous supportaient. Et puis, on était vraiment là... on les voyait là. Puis il y en a qui, à un moment donné, quand ça a avancé, il y en a qui pouvaient traverser, parce qu'on s'entend qu'il y avait des sœurs et des frères qui étaient dans le même village, hein. Dans le même rang, rang 3, ouais. Rang 4. Puis
est-ce que vous tente, les deux. Est-ce qu'on vous respectait en tant que casque bleu dans ces pays-là quand vous tentiez de maintenir la paix?
C'était un peu la même game qu'avec les talibans. Quand on arrivait entre les deux, on avait le respect parce que ça se tirait moins, puis c'était... Il y avait une zone de paix entre les deux factions, ou entre les deux groupes de on s'entend, les Croates, les Serbes, etc. Est-ce qu'on était respecté? Oui, mais le méchant ne nous respectait pas, c'est certain. Là, je veux dire,
il continue à faire ses affaires.
Ceux-là qui nous aimaient ne nous seraient pas dessus. Là.
Non, c'est ça. Tu as rencontré les talibans?
En Afghanistan?
Oui.
On ne peut pas dire qu'on a vu un parce que il n'existe pas. Ça n'existe pas, un taliban.
Ça n'existe pas. Ben, à la télé, ça existe, là?
Oui, on les voit. Ouais. Mais quand tu es sur le terrain, moi, mon commandant afghan que je mentorais, j'ai dit, sont où les talibans? Il dit, they fly like a bird. Tu sais, ils s'envolent comme des oiseaux. Je veux dire, la personne qui nous tirait dessus, nous autres, on avançait pour aller le chercher. Mais, par exemple, si on faisait tomber de l'artillerie ou du mortier, t'arrivais dans un campement, bien, crime, il n'y avait plus rien.
Il était parti.
Il était parti. Vous êtes où? OK, il y a une petite tache de sang à terre, mais ils sont où? Les fly like a bird.
Ils se sauvaient rapidement.
Ils se sauvaient comme des oiseaux.
Les technologies, est-ce que... Bon, t'as eu, quoi, presque 30 ans, là, carrière militaire, casque bleu et tout ça. Les technologies, dans ces décennies-là, ont changé comme pas possible.
Je te dis... Sarajevo, si je compare à 2009, comment on était équipé, comment on avait tout notre stock, je compare Sarajevo qu'on était en Gogun, puis qu'en 2009, on était des G.I. Joe. Là.
Ah ouais?
Non, j'avais tout. Puis les gars, il y avait des gars qui étaient jaloux de moi, qui disaient « Crime, Fred, toi, t'es au combat tout le temps avec ta gang. Nous autres, on est plus en arrière, peut-être. Mais toi, t'as tout. T'as un drone, t'as ci, t'as ça. » Tiens, oui, on l'avait, puis... Ça
facilitait
ça facilitait beaucoup la donnée.
T'as-tu l'impression que dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus de militaires au sol?
Je suis pas inquiet pour mon garçon s'y rendre dans l'armée.
Ah ouais. Oh, ouais?
Non.
Ouais. Je me posais cette question-là, je me demandais si je la demandais.
La question mérite d'être posée.
Ça va être des guerres technologiques.
Je pense beaucoup plus.
Ouais.
La guerre pour entraîner... Le Canada va toujours avoir besoin d'une armée pour sortir du trouble quand il arrive un cataclysme et entraîner les autres armées comme on fait le Lutanie présentement. Mais je vois pas mon garçon sautant sur d'une mine les prochaines années. C'est pas
avec les technologies, ça va être...
Non, il va arriver de quoi qu'il va tomber là avec les soldats rentrent là. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu sais, dans l'armée, il manque présentement 15 000 personnes. C'est un peu comme le reflet de la société qui est une pénurie de main-d'œuvre. Écoute, il y en a beaucoup qui ont libéré suite à l'Afghanistan, qui ont rentré dans l'armée en espérant vivre qu'est-ce qu'on vivait là-bas. Puis ça a fait pout, puis qu'il n'y a plus d'Afghanistan. Puis moi, on les dit, bon, mais je me suis pas enrôlé, moi, pour aller faire des poches de sable au Saguenay. Là. Je me suis enrôlé pour aller au combat. Fait qu'il n'avait plus de combat, puis ça fait longtemps qu'il n'a plus de combat. Ça a fini pas mal. Non, non, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas personne là, qui veut aller se battre là-bas, malgré que tu t'enroules pour ça. Mais quand tu le vis, tu te dis, ah, t'as peur, c'est quoi ça?
Puis. Ouais. Est-ce que quand il arrive des déluges, là, ben, on parlait du déluge du Saguenay, là, mais quand il y a des déluges comme ça, chaque année, il y a des endroits où ça brasse au Québec, puis on demande tout le temps aux politiciens, nous autres, en tant que médias, bon, pourquoi vous ne demandez pas l'intervention de l'armée? Il semblerait que c'est hyper compliqué de faire intervenir l'armée, parce que là, c'est provincial, faut passer une demande au fédéral, puis là, c'est le politique qui doit faire descendre ça pour qu'après ça, le militaire prenne ça, puis ils prennent leur propre décision à savoir s'ils vont ou ils vont pas. Vous autres, sur le terrain, dans le 22, là, vous devez juste rêver, des fois, d'aller aider votre population. Là.
C'est certain, mais si la base de quartier est en entraînement pour être déployée, exemple, à Lutanie, tu peux pas les sortir de l'entraînement.
C'est Lituanie
dire...
ou Lutanie?
La Lutanie. Lutanie, je pense
c'est
que c'est
Lutanie. OK, je pensais que c'était
Mais peut-être que c'est moi qui se trompe aussi, là, parce que quand même des lettres qui ne se ressemblent pas. Mais, non, mais tu sais, si l'armée, présentement, mettons, à Val-Cartier, s'entraîne pour partir, être déployée, c'est encore maudit d'aller chercher et dire, regarde, on va enlever un mois d'entraînement, puis vous allez aller. Mais moi personnellement, pour l'avoir vécu, je pense que la crise du Verdun en 2017, c'était le pire moment que j'ai travaillé, la fois que j'ai travaillé le plus fort de ma vie. Puis que ça n'avait pas de bon sens. Là. On était dans des conditions terribles. Puis la population, la population montréalaise ne nous appréciait pas tant que ça. Là. Je veux dire, ils ont commencé à nous apprécier quand on est rentré dans les régions. Puis là, ils voyaient le travail. Puis là tu voyais des fois la petite tasse à café qui arrivait dans les maisons. Puis une petite pizza.
Oui.
Mais tout mon temps à Montréal, moi, t'as dit, j'ai détesté ça. Là. C'était vraiment pas le fun.
Non, mais c'est une autre communauté aussi. Là.
Je veux pas embarquer dans mon petit côté athée. Là.
Non, mais c'est une autre communauté dans le sens où...
Mes convictions.
Sont un petit peu plus à gauche à Montréal. Les autres, ils ont l'impression que les militaires,
c'est négatif.
Là. Tandis qu'à Québec, on est collé sur la base militaire, puis on a la chance de vous côtoyer, puis on connaît vos missions, on en parle dans les médias. Fait que je pense que la reconnaissance envers nos militaires est plus présente à Québec qu'à Montréal.
Il y a tellement de monde. Non, mais je veux dire, même... C'est parce que là, on a le nez dedans. C'est comme tu dis, là, tu sais, tu vas sur Henri IV, tu vois 3-4 chars de l'armée, puis...
D'habitude, quand j'ai les vois, c'est parce qu'ils sont en panne. Hein?
Je te dirais qu'avec la nouvelle technologie qu'on a, il y en a de moins en moins en panne.
Hey, tabarouette.
Ça a déjà... M. Arthur a eu du fun.
Ça me faisait halluciner, Audrey. Je restais à Shannon au tournant des années, mettons, 2002, 2003, 2004. Puis le nombre de véhicules militaires que je voyais en panne sur le bord de l'autoroute, ça me faisait halluciner.
Non, c'était une risée. Je disais qu'on montait pas Henri IV. Non, c'est pas...
C'est pratique, cette affaire-là.
C'était pas des menteries. Là. Mais là, je vous le dis, là, avec l'arrivée de l'Afghanistan, ça a tout changé. Là, le mode de l'Afghanistan, les nouveaux véhicules qui ont rentré. Puis je te dirais même qu'aujourd'hui, j'ai quasiment hâte cet été. Il va sûrement avoir une journée porte ouverte. Puis je vais aller faire un tour avec mon garçon. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de véhicules, beaucoup d'armements que je connais même plus.
Je veux dire, tellement ça a changé.
Ben, tu sais, moi, mon véhicule que j'avais en Bosnie, ben, c'est rendu un monument quand on l'a rien dans la manne.
Là, il y a-tu ta photo à côté, noir et blanc?
Il pourrait quasiment. Puis la vie va tellement vite, ça n'a pas de sens. Puis là, tu dis, crime, je suis rendu un monument. Tu sais, je rends pas moi le monument, mais ce que je me servais est rendu des monuments.
Ta blonde peut dire ça. Mon amoureux, c'est un monument.
Mais, je veux dire, quand on rentre, exemple, au 3e bataillon vers le quartier, on rentre dedans, puis il y a un petit mur, un petit wall of fame.
Ouais.
Puis, des fois, je pars juste pour aller m'acheter un ancien gilet ou une tasse à café, tu sais, ou vers un petit magasin qu'il y a là. Puis, je regarde mes photos qui sont là, à gauche puis à droite. Puis, le commun des mortels qui passe là, aucune maudite idée, c'est qui est sa photo, là.
Non.
Mais c'est bien correct. Je veux dire, comme je disais à mon garçon, fais ta carrière, moi, la mienne est faite. Puis, tu sais, moi, je vis avec mes souvenirs, puis je trouve ça, c'est le côté qui est le plaisant.
Tu connais l'histoire de Léo Major?
Ben oui.
Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme ça, on nous en a pas parlé quand on était au secondaire? T'es un petit peu plus vieux que moi, là, mais t'aurais-tu aimé ça qu'on te parle de ce gars-là, un héros québécois qui a donné sa vie au combat, qui a travaillé extrêmement fort, qui est revenu en toute humilité ici, tu sais, puis pour passer le restant de sa vie avec sa petite famille? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a jamais entendu parler de ce héros québécois-là? Puis que là, depuis les années 2000, ben, on est une coupe, je peux m'inclure, là, parce que j'en parle régulièrement de Léo Major, on est une coupe à parler de lui. Tandis qu'à se voler, il y a une journée dédiée à Léo Major parce qu'il a libéré à lui seul une ville. Dans les stades de soccer à se voler, ben on béatifie Léo Major. Ici, ça fait quelques années, mais sans plus.
C'est assez... Moi, j'ai été voir sa tombe ou ce qui est enterré.
Ah ouais.
Puis c'est une petite plaque, on dirait une feuille 8,5-14.
Ouais.
C'est tout petit, tout petit. Puis là, j'ai pris le temps de nettoyer sa petite plaque à terre pour enlever les herbes. Puis tu sais, je me dis... Puis le monument là-bas, le cimetière, c'est tellement grand que ça prend quasiment une carte pour savoir où est-ce que tout le monde est. Mm. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de gens de là-bas qui vont le voir. Mais je veux dire, il n'y a pas personne. Puis la route Léo Major aurait dû être beaucoup plus grosse que le petit tronçon.
De, ben, c'est la continuité de Montaulieu.
Montaulieu, là. Fait qu'on n'est pas comparable à ce qui arrive... en Hollande, comme tu disais.
Ouais.
Moi, quand j'étais en Europe pendant mes 4 ans, j'ai fait 2 fois la marche de Nijmegen, page 184, je pense, dans le livre.
Mais, on en jasera, tu
on en jasera. Mais non, mais sincèrement, en Hollande, à toutes les années, ils font une marche pour commémorer que le Canada, il est vraiment sur spotlight, là,
exact.
Pour dire hey, merci d'être venu nous libérer pendant la guerre, puis tatata. Ici, ben là.
Le samedi, il va avoir samedi à Lévis pour le régiment de la Chaudière. Là.
Oui.
Il va avoir le dévoilement du buste de Léo Major, de ce que je comprends.
Oh, nice, parce que oui, il venait de. Il était de ce régiment-là, si je me trompe pas. Ouais.
Exact. Qui était un régiment particulier à l'époque. Tu avais des gars qui. Des bad boys qui s'en allaient dans le régiment de la Chaudière.
Mais je pense que Léo Major était un bad boys en partant.
Oui, oui.
Je veux dire, le gars, là. Hey, il est allé deuxième, puis Colin, il est revenu, manquait un œil, tout est clopé, il aurait pu surfer sur cette vague-là. Ouais. Ben non, il a tête de cochon, il retourne en Corée.
Son tank a sauté.
Ce gars-là, c'est un... Lui, c'est le vrai Rambo québécois. Là.
Ouais.
C'est...
Exact. Mais j'aurais aimé qu'on... Tu sais, des fois, quand on est jeune, on se cherche des modèles, là. Puis bien souvent, nous autres, c'était bon, on avait des modèles dans le sport, mais j'aurais aimé ça, voir un modèle masculin d'un gars, un Québécois, qui est allé se battre ailleurs, puis qui est revenu ici, puis qu'on y rend honneur à chaque année. Moi, d'avoir appris ça plus tard, j'avais été flabbergasté, puis je me suis dit, il y a juste au Québec, il y a juste nous autres qui peuvent faire une affaire de même, d'oublier ce gars-là pendant des décennies. Mais le gars était tellement humble, tu sais, sa femme, quand elle a appris tout ça, a demandé à son mari, Léo, pourquoi tu m'en as pas parlé, qu'on te célébrait à chaque année? Il dit, ben, parce que si je t'avais raconté tout ce que j'avais fait, tu m'aurais jamais cru. Mm. Hein, les femmes, on sait.
De base!
Oh.
mais de base, Léo Major, c'était un sniper. C'était un gars du peloton de reconnaissance. Et puis...
130 livres.
Oui, puis je veux dire, si tu rencontres un militaire à la base ou un ancien militaire là, avec des grosses vestes, puis tout, puis il te compte que c'est un sniper, ben dis-toi que ça n'est pas un, parce que les snipers ne disent pas qu'ils sont snipers. Fait que ça peut te donner une bonne idée. Là.
Ouais. Ouais. Vous gardez une certaine...
Tu gardes une certaine gêne,
une effectivement. Petite gêne. Ouais. Parle-moi de ton livre.
Ben, le livre, comme je disais tantôt en entrée de jeu, c'est quelque chose de très thérapeutique que j'ai commencé. Les 50 premières pages relatent vraiment le temps que j'ai passé en Afghanistan. Ensuite, de ça, on fait un retour de ma naissance jusqu'à mes 50 ans, en passant par les... Je ne reparle plus des mauvais coups, parce que les mauvais coups sont les 50 premières pages. Mais après ça, je dis, je peux pas cracher sur une carrière de 25 ans d'armée, que crime, j'ai même eu la chance de voler en F-18, puis d'avoir les commandes, puis... Je ne peux pas dire que j'ai pas eu de fun à faire toutes les folies que j'ai faites. Puis, moi, dire qu'être mutant en Europe de 18 à 22 ans, ça n'a pas été facile sur le fouet, là. Puis, on a eu du plaisir.
Ça s'appelle, ton livre s'appelle L'envers de la médaille.
Et voilà, oui. Okay. Je voulais juste démontrer, de me figurer sa page couverture, qu'en arrière, c'est beau avoir beaucoup de médailles, mais quand tu te projettes en arrière, tu te dis, bof, c'est peut-être moins intéressant.
T'as-tu souffert en écrivant ce livre-là? De te remémorer des moments de ta carrière où que tu avais comme un peu enfoui dans ta mémoire?
Moi, sincèrement, j'étais un gars qui avait énormément, beaucoup, beaucoup de mémoire. Okay? Puis, je l'explique un peu dans le livre. Si, mettons, avant, je dis pas que j'ai un QI exceptionnel, là, mais mettons que j'étais un gars qui performait de 110% là, versus à peu près tout le monde. Là. Mais là, je suis rendu à 10%. Puis je considère que mon 10% est devenu mon nouveau 100%. Fait que je m'assis là-dessus. Puis quand j'écrivais, par chance que j'avais tout gardé mes notes, parce que, veux pas, un document top secret provient des documents d'un dossier Word que tu écris. Mm. Puis ensuite de ça, il fait son petit chemin, puis il s'en va vers le côté secret, avec des changements de clés USB, en tout cas. Mais pas toutes les notes que j'avais prises de mes missions puis mes combats que j'avais faits pendant les semaines.
C'était... Tu prenais des notes au fur et à mesure?
C'est une équipe. On est une équipe. Là. Le soir, on s'arrivait, on va dire qu'est-ce qui s'est passé dans la journée.
C'est le débrief.
C'est le débrief, exact, effectivement. Et puis, j'avais tout gardé ces notes-là. Fait que ça m'a aidé beaucoup à revenir. C'est pour ça que dans le livre, des fois, c'était à minute près. Là. Tu dis, bon, OK, c'est passé ça là. Mais moi, c'est pas vrai que je me rappelais de tout ça parce que ce que j'ai fait hier, je m'en rappelle déjà plus. Fait que j'ai perdu beaucoup de mes facultés de mémoire. Puis...
Fait que ça a pas été, ça a été difficile ou pas?
Ça a été compliqué dans le sens que je me rappelais pas de tout. Mais de ma vie avant 2009, je m'en rappelais comme si c'était hier. Mm. Toute ma jeunesse, mes ci, mes ça, mes premiers blondes, tout était là. Mon temps en Europe, tout était là. Le clash s'est fait à partir de 2009. Puis là, c'était plus compliqué à décortiquer qu'est-ce qui s'était passé. Puis encore là, ben, avec l'accès aux informations, j'avais tous les documents de dossiers médicaux. Fait que j'avais tous les dossiers, les notes des psychiatres. Fait que c'était rendu facile de voir où ce que j'étais rendu en 2011, en 2010, en 2012.
Ta famille, as-tu écopé de ta carrière dans l'armée?
Moi, je suis parti, mon gars avait 10 jours, je suis revenu marcher. Fait qu'en partant, lui, moi, je me souviens pas tant de cette époque-là, j'étais pas là. Puis quand je suis revenu, ben, j'étais pas fin. Fait que c'est certain que là...
Ah ouais, t'as un caractère qui était...
Un caractère déplaisant. Puis ouais. Je pense que je suis pas le seul à vivre ces moments-là.
Non, vous êtes plusieurs.
Puis écoute, j'ai une femme exceptionnelle. Fait que ça m'aide à passer au travail. Puis elle m'a aidé beaucoup. Sans elle, je serais probablement, comme plusieurs... on part tout le temps 158, descend en Afghanistan. Mais il y en a probablement...
Après.
Le trip qui sont partis, là. Puis ils sont partis parce que ils ont...
La vie normale
était trop... Pas qu'ils n'ont été pas appuyés, parce que l'aide psychologique, l'aide est toute là pour tout le monde. Il n'y a pas personne dans ces combattants qui va dire « je suis maltraité ». Non, non, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'aide. Mais d'avoir de l'aide à la maison, je pense que c'est une petite coche de plus. Dans...
Oui, puis tu as l'impression que sans elle, tu serais peut-être plus là.
Oh, ça, oui, mais ça, sans mes enfants, c'est certain, en tout cas.
Tu t'en veux-tu des fois? As-tu l'impression, as-tu des regrets par rapport au fait que tu as manqué des bouts peut-être de leur vie plus jeune? Ou...
Étant donné que, là, je suis retiré des forces, puis je fais partie des gens qui sont quand même bien la semaine, j'essaie de donner mon maximum à mes enfants. C'est certain que des lifts de poche de hockey, j'en ai fait cet hiver, puis j'en m'en refais l'année prochaine, mais c'est quoi qui me dérange jamais? C'est quelque chose que... As-tu besoin de quelque chose?
C'est comme si tu rattrapais le temps perdu.
J'essaie de rattraper, là. Comme là, matin, là, il était tout attristé parce qu'il a perdu un de ses AirPods hier. Je lui ai dit, gars, c'est pas grave, là. Je lui ai dit, hey, là, Audrey, j'y annonce en même temps qu'elle m'écoute. Là. Je lui ai dit, gars, là, Loïc, là, finis ton année scolaire dans le sens du monde, puis va t'en acheter.
Ouais. Même s'il veut être militaire, tu le pousses à continuer l'école.
Moi, je veux qu'il finisse son secondaire 5.
Oui, c'est le minimum.
Parce que
pour
ça,
toi.
C'est le minimum pour moi. Ouais. Je le sais que ça prend 24 crédits, secondaire 4, etc. 24 crédits, secondaire 4.
Secondaire 4.
Oui, okay. Ça prend juste ça. Probablement que dans une semaine, il va me dire, gars, papa, j'ai dit mes 24 crédits, mais moi, ça va être non. Ouais. Parce que quand j'ai transféré officier, il me manquait mon français secondaire 5.
Ouais. Alors, tu fais bien de le pousser.
Puis là, mon français secondaire 5, je l'ai refait à 32, 33 ans. J'ai pas trouvé ça très mal fun. Là. Je l'ai fait en 3 semaines parce que je me suis poussé derrière pour le finir au plus vite.
Ouais.
Mais quand tu te fais reclasser secondaire 1, là, parce que mordu, mordé, mais où est donc Carniard?
Fred Caron, ton livre, L'envers de la médaille, on peut se le procurer à quel endroit?
Ben moi, il est en PDF, je peux dire, sur ma page Facebook, il est facile à trouver.
Okay.
Quelqu'un qui m'écrirait, j'y envoierais parce que j'ai pas l'intention de le publier. J'ai été approché par quelques compagnies, beaucoup en France, qui voulaient, hey, c'est intéressant, on aimerait ça.
Ça t'intéresse pas.
Mais j'aimerais ça, puis mon but serait pas de faire une scène avec ça, parce que si j'aurais un revenu, je le donnerais à l'organisme qui en a de soldats blessés. J'ai pas le goût de faire une scène avec ça. Mais beaucoup d'organismes me demandaient de payer mes poches pour avoir les frais de publication. Ça m'intéresse pas, parce que je l'ai pas fait pour être vendu, je l'ai fait pour moi. Si quelqu'un veut le lire... Mais un petit coucou sur Messenger, n'importe quoi, puis je vais l'envoyer en PDF.
Ouais. Ton gars, l'as-tu lu?
Mon gars l'a dans son sac d'école. Fait qu'il a commencé à le lire, puis je pense que ma femme l'a même pas lu.
Oh,
je
ouais.
pense qu'elle l'intéresse pas. Je pense qu'elle l'a vécu, puis
elle n'a pas besoin.
Il y a même des pages que c'était Audrey qui avait écrit que j'ai retrouvé dans un dossier psychologue, là, puis Je me faisais torturer un peu. Puis, je suis pas sûr que ça y tente tant que ça de leur dire lire. Mais comme je te dis, Audrey, elle l'a vécu en même temps que moi, je vivais ma... pas ma thérapie, mais ma...
Ben, elle vivait les contre-coups, je veux pas.
Oui, oui, oui. Puis, elle en vit encore un peu. Ben, je suis pas tous les jours équilibré, peut-être, comme là, je suis ici, là, je suis à l'aise, tu sais, je vous vois, je suis dans un endroit quand même qui est fun, mais je suis pas tout le temps comme ça, là, c'est pas vrai.
Beaucoup de commentaires en passant de gens qui nous écrivent au 418-971-101 qui te disent « Fred, un gros merci pour ton service ». Il y a des ex-militaires aussi qui t'écoutent. Il y a des femmes d'ex-militaires qui ont malheureusement qui nous ont malheureusement quittés qui te disent un gros merci pour ton témoignage.
Ah bien, ça fait plaisir.
Il y a des gens qui nous demandent aussi pour lire le dit livre. Fait que vous écrirez directement Fred Caron sur Facebook. Il est super facile à retrouver, pas compliqué.
Ouais, aujourd'hui, ben, c'est facile. C'est la page du drapeau des Nations Unies. Puis demain, ça va être la photo de moi puis ma femme. Ça va être aussi facile que ça. Puis des Fred Caron, il y en a quelques-uns même.
Fred Caron, un gros merci.
Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. C'est vraiment sympathique.
Partagez.
11h11, on fait une courte pause, on vient.
11h11. Dans le retour.